Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Michel Crépu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes venu nous présenter la dernière livraison de la revue des Deux Mondes dont nous sommes partenaires. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes rédacteur en chef donc de la revue. Alors pour ce numéro de janvier, vous avez décidé de consacrer la revue à un anniversaire, celui de la Cour des Comptes, 200 ans. C'est le numéro de janvier, la revue des Deux Mondes, 200 ans, 1807-2007. C'est une institution qui est peu connue, la Cour des Comptes, et qui pourtant a un rôle essentiel.
C'est très exactement la raison pour laquelle nous avons eu envie de consacrer un dossier à cette mystérieuse Cour des Comptes, précisément parce qu'en effet, elle fait un peu figure d'inconnue dans notre monde, dans notre société, et en même temps elle occupe un rôle, une fonction, une place tout à fait stratégique. Enfin, c'est un peu la boîte noire, vous savez, comme on dit dans les avions, après les accidents on regarde la boîte noire pour voir ce qui s'est passé. Et bien, d'une certaine manière, la Cour des Comptes, c'est une boîte noire, non pas au sens mystérieux, on n'est pas dans un roman de John le Carré, mais simplement parce qu'elle, comme son nom l'indique, elle est la gardienne et plus que ça, enfin le témoin actif, attentif de la façon dont l'argent public est investi, dépensé, voilà. Donc c'est une bonne raison, je crois.
Alors plusieurs articles sont consacrés à cette Cour des Comptes, hein, des articles de Philippe Seguin ou bien de Jean-François Collinet. On sent vraiment que nous sommes très très loin du monde politique et de ses affres, hein. Comment Collinet utilise trois mots: démonstration, raisonnement, preuve. C'est ce qui constitue, j'allais dire, les trois piliers de la Cour des Comptes.
Oui, j'allais dire que c'est un principe de vérification qui, dans un monde où qu'on se plaît à juste titre d'ailleurs à décrire comme un monde de flux, et particulièrement en ce qui concerne le monde financier, justement on parle de flux financiers, on parle d'un caractère virtuel de l'argent, d'une extraordinaire abstraction de ce qui concerne la monnaie, l'argent. Or la Cour des Comptes, sans faire comme si on était encore au temps de Napoléon, maintient un principe concret. Enfin, quand il s'agit d'argent,
un sou est un sou.
Voilà, un sou d'un sou. Il y a quelque chose d'extrêmement précis, et il est très important, du moins, qu'il y ait dans cet univers dans lequel nous sommes un endroit où ce principe de précision soit réel.
Elle a une vocation internationale, cette Cour des Comptes.
Oui, dans la mesure où, même si elle, évidemment, elle a enfin une spécificité française, un enracinement, une existence française, on n'imagine pas une succursale de la Cour des Comptes à Francfort ou à New York, mais du fait même que l'argent circule et au fond n'a pas de frontières, dès lors qu'il y a un enjeu de cet ordre, la Cour des Comptes a évidemment fonction d'observer ce qui se passe. Je pense, bien que là cet exemple soit peut-être pas exactement celui le meilleur, mais Philippe Séguin évoque dans son entretien qu'on a eu le Téléthon, la façon dont l'argent est investi dans le Téléthon. Alors, je ne suis pas allé voir moi-même très précisément dans le détail des choses, mais c'est intéressant de voir effectivement si d'autres pays sont impliqués, comment tout ça circule. C'est un tel impact médiatique, un tel impact populaire même, on peut se poser des... Oui, on peut considérer qu'il y a une vocation éventuellement internationale de ce point de vue-là. Hein.
Alors, autre sujet, hein, vous évoquiez l'interview de Philippe Seguin, il y a deux autres interviews. La première, hein, celle de Jean-Yves Masson sur Hugo von Hofmannsthal. Alors, oui. Qui était ce Hugo von Hofmannsthal?
Eh bien, ce Hugo von Hofmannsthal a été, au début du XXe siècle, enfin dans la première partie du XXe siècle, l'un des plus grands poètes autrichiens, hein, de langue allemande, donc, si vous voulez, pour parler de quelqu'un peut-être de plus connu, un frère en esprit de Stefan Zweig, par exemple. Mmh. Hein, c'est le même monde, la même époque, un peu la même expérience qu'évoque Jean-Yves Masson, qui est donc son traducteur.
C'est ouais.
On a maintenant en poche, d'ailleurs, ce qui est tout à fait une bonne idée de la part de l'éditeur, les éditions Verdier, on a une édition complète des poésies de Hofmannsthal, qui n'a pas fait que écrire des poésies, qui a écrit aussi beaucoup de récits, de nouvelles. Et on peut dire que, oui, la comparaison avec Zweig me paraît juste, si vous voulez. Ce sont des gens qui ont été vraiment très imprégnés d'un héritage humaniste. Enfin, ce sont des enfants d'Erasme, ce sont des enfants vraiment de ce que l'Europe avait produit de plus beau, de plus profond, et qui se sont trouvés historiquement au moment où les choses basculaient, avec l'imminence de la guerre de 14 et l'écroulement de l'Empire austro-hongrois. Hofmannsthal a été vraiment, d'une façon extraordinairement sensible, sa poésie en témoigne, extraordinairement sensible à cette fin de monde et à l'avènement d'un autre monde qu'il n'a pas connu, mais dont il a deviné en tout cas les prémices.
Mmh. Alors oui, nous sommes au carrefour, si je puis dire, de la littérature, de l'histoire, de la pensée politique et même de la religion.
Oui.
Mais au-delà, ce qu'on remarque est visiblement dans toute la revue, c'est cette notion, c'est cette idée de changement, de tournant, l'idée de tournant que vous évoquez dans votre éditorial, Michel Crépu, et qu'on retrouve également chez Chateaubriand. Chateaubriand, donc, qui évoque Jean-Paul Clément, qui est correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques.
Oui, oui, tout à fait. Oui, absolument. Cette étude que Jean-Paul Clément a consacrée à Chateaubriand, après bien d'autres travaux, parce qu'il est vraiment, enfin, il a écrit une biographie, c'est pas la première fois qu'il travaille sur Chateaubriand. Mais là, l'idée, ce que je lui avais suggéré comme hypothèse de travail, c'était de s'intéresser à la dimension de la transmission. Comment Chateaubriand a vécu, transcrit et manifesté à travers son travail d'écrivain le passage d'un monde à un autre, et en quoi ce passage implique tout aussi bien de la rupture, de la perte, de l'oubli, mais aussi de la continuité, du renouvellement, de la métamorphose, les deux en même temps. Et Chateaubriand, pour cela, est d'une manière différente, bien sûr, de Hofmannsthal. Chateaubriand ne pouvait pas s'imaginer, mais peut-être, au fond, dans les mémoires d'outre-tombe, c'est là le génie de ce livre. Évidemment, Chateaubriand ne pouvait pas deviner que l'Europe allait connaître un événement comme la Grande Guerre de 14, mais on peut quand même sentir, à la lecture des mémoires d'outre-tombe, le pressentiment d'un monde nouveau, entièrement différent de ce que, bien sûr, il avait connu par sa famille, sa culture, sa tradition du XVIIIe siècle et encore bien, bien plus en amont.
Enfin. Mmh. Hofmannsthal, Chateaubriand, nous sommes à une époque de tournant. Hein. Ces tournants se retrouvent aujourd'hui, en tous les cas ce tournant, vous le dites dans votre éditorial, aujourd'hui nous sommes dans une époque qui s'interroge et la Revue des Deux Mondes nous aide à mieux comprendre notre époque.
Oui, d'une façon, c'est toujours tout l'intérêt de la comparaison, de l'exercice comparatif. Après tout, les fondateurs de la Revue des Deux Mondes en 1829 avaient conscience d'être aussi un tournant. C'était encore Charles X, mais plus pour longtemps, et ils se doutaient bien, ils avaient leur petit radar à l'époque, et ils se doutaient bien que ce qui allait venir allait vraiment faire entrer la France dans un monde tout à fait différent. Eh bien, je ne dirais pas aujourd'hui que nous sommes comme sous Charles X, mais nous sommes incontestablement quand même un tournant, dans la mesure où, ne serait-ce que pour ce qui concerne la scène politique, on va forcément entrer dans l'inédit. Enfin, sauf si, ce dont je me permets de douter au micro, mais l'histoire me démentira s'il faut, sauf si le président Chirac se représente. Mais tout indique quand même que ce ne sera pas le cas. Et j'allais dire, même s'il s'en présentait, cela ne changerait pas grand-chose à la dimension très profondément inédite que nous allons connaître, que nous connaissons déjà même maintenant. Donc c'est intéressant pour une revue, c'est même, j'allais dire, un devoir très agréable d'ailleurs, qui fait tout l'intérêt de cette revue, eh bien d'essayer de comprendre, de se donner l'intelligence de ce moment où nous sommes, de ce moment de tournant politique, mais peut-être pas seulement politique. Hein. Je pense que tous les aspects, tous les domaines de l'existence sont concernés. aussi bien religieux que sexuel, que je crois qu'il y a vraiment là...
Il n'y a plus, dites-vous, d'oriflamme, en fait.
Non, c'est un peu une banalité de le dire, mais le redire ne me paraît pas inutile, parce qu'on voit bien, justement, à l'épreuve des faits, quand on voit les différents candidats en lice, là, évidemment, ils sont obligés de montrer d'où ils viennent, enfin, à quelle famille ils appartiennent, mais on voit bien que l'oriflamme, la bannière idéologique, elle est plus si facilement utilisable qu'autrefois, et on pourrait même dire qu'elle n'est vraiment plus utilisable tout court, et il y a eu trop d'impostures, trop de mensonges, trop de morts, enfin, pour qu'on puisse comme ça dresser comme si de rien n'était, et encore peu de temps, un congrès du PS se terminait au son de l'international, il n'y avait pas seulement le PC, mais aussi le PS. Bon, bah, aujourd'hui, je serais vraiment très étonné, mais je me trompe peut-être là aussi, peut-être l'histoire va me démentir, mais je doute qu'on entende l'international dans les semaines ou les mois qui viennent. Mais peut-être que je me trompe.
Excellente transition vers un autre article, celui de Marin de Viry, qui lui présente deux cultures, la culture ado contre la culture Canal+.
Oui, alors Marin de Viry, qui est un chroniqueur...
La culture ado à travers, en fait, une chanteuse, hein, c'est d'où ma transition, la chanteuse Laurie.
La chanteuse Laurie, absolument, oui, dont il s'amuse à faire un portrait un peu au vitriol, hein, enfin, qui, une façon de mettre en évidence le côté complètement grotesque ou
vide.
Vide, oui, voilà, je crois que c'est le mot, en effet, c'est ce monde de la télévision. Enfin, la télévision, au fond, la télévision, ne soyons pas non plus trop sévères avec la télévision, mais soyons sévères avec ce que certains en font. Parce qu'au fond, la télévision, elle a gardé quand même un côté, comment dire, dans le quotidien, on voit parfois que la télévision fonctionne comme fonctionnait au fond autrefois le cinéma. On regarde des émissions ensemble, en famille, je peux en témoigner. Le rédacteur en chef de la Revue du Monde que je suis avoue au micro qu'il lui arrive de regarder la Starac avec ses enfants. Et c'est bien, j'en éprouve aucune espèce de honte. En revanche, parce qu'on peut partager des choses, on peut communiquer des choses dans ces moments-là. Ou comme l'autre jour, Guerre et Paix qui passait, le film de King Vidor qui passait, on a regardé ensemble et c'était l'occasion de parler de Tolstoï, ce qui est après tout pas mal. C'est mieux que Laurie. Hein, alors, il y a du vide, mais il y a aussi pas que du vide à la télé. Alors Marin de Viry, là, a choisi de porter le fer à l'endroit, effectivement, où se manifeste de la façon la plus ridicule, la plus extravagante, la superficialité totale de ce monde du spectacle. Mais ce n'est pas pour autant qu'on diabolise l'objet télévision. Quoi. Je crois qu'il faut là aussi faire des distinctions.
Alors je reviens tout de même, hein, parce que cette idée de transition, pour moi, est importante et elle ressort véritablement de ce numéro de janvier de la Revue des Deux Mondes. Il y a la deuxième interview, en tous les cas la troisième après celle de Philippe Seguin et de Jean-Yves Masson, c'est l'interview de Mona Ozouf,
oui,
qui est passionnante. Mona Ozouf, donc, qui est spécialiste de la Révolution française, qui a beaucoup travaillé avec François Furet. Et elle travaille cette fois sur le roman, finalement, un domaine sur lequel nous n'avons pas l'habitude de la voir.
Oui, absolument. Mona Ozouf, en fait, en tant qu'historienne, c'est ça qui est intéressant dans son cas, c'est que l'historienne, de par la logique même de son travail sur la Révolution française et sur justement un moment capital dans l'histoire de France de mutation radicale, on parlait de Chateaubriand, mais au fond Mona travaille sur le même matériau et s'est trouvée amenée très logiquement à une confrontation avec le roman, avec Balzac, avec Flaubert, avec tous ces écrivains qui ont été justement ceux qui ont su donner une forme à ce qui peut-être n'en avait pas, ce moment de passage, comme elle le décrit très bien, où tout à coup des choses deviennent vulgaires, où on ne peut plus avoir affaire à des héros pur et dur, en tout cas fabriqués d'une même étoffe. Non, les personnages de Balzac sont tous un peu justement impurs et révélateurs d'un moment historique au fond assez trivial où l'ancien régime et le nouveau se mélangent, s'interpénètrent, échangent des valeurs, où ce qu'il y avait de noble peut-être se déplace et ce qu'il y avait de vulgaire se déplace aussi. Enfin, au fond, la notion de nouveau riche, Balzac en a peut-être été un des premiers observateurs, donc tout ça reste très valable. Et tout l'intérêt du travail de Mona Ozouf, qui a d'ailleurs avait consacré aussi il y a quelques années un livre admirable à Henry James, donc un grand romancier américain qui lui aussi a été un témoin tout à fait extraordinaire de ce moment historique de changement profond et qui finalement fait du roman l'endroit privilégié où on peut observer ça à l'œil nu. Quoi.
Alors elle porte un regard sur le roman d'aujourd'hui. Elle explique qu'il y a une absence de candeur. C'est un sentiment que vous partagez ?
Je suis pas sûr de partager exactement ce sentiment.
Parce que vous-même, dans la revue, dans vos pages, vous expliquez que vous êtes parti en Roumanie. Oui. Vous avez présenté à des étudiantes roumaines la situation du roman français. Oui. Vous êtes sur la même grille, si je puis dire, d'analyse.
Pas tout à fait. Je dirais que le roman français aujourd'hui se trouve dans une obligation de tout redémarrer à zéro. Alors peut-être qu'en effet, ça passe par une certaine candeur. En même temps, ce redémarrage à zéro n'est pas une table rase. On a été fait, façonné, influencé par des maîtres, par des auteurs. Et la France, l'histoire littéraire de la France est tout ce qu'on veut, sauf une histoire de candeur. Enfin, le scepticisme, l'ironie, la raillerie font partie intrinsèquement de la fibre française. Donc, imaginer ou même regretter une candeur, je veux bien, mais j'ai scrupule à aller plus loin dans la contradiction vis-à-vis de Mona Azouf, parce que elle devrait me répondre, et beaucoup mieux que moi. Donc je m'arrête là, mais je comprends ce qu'elle veut dire. Il y a un besoin de peut-être trop de savoir-faire, peut-être trop de métier, mais en même temps, on voit bien qu'il y a cette situation, elle peut-être aussi très inédite, où pour la première fois, les écrivains français sont obligés d'aller chercher chez les autres de quoi recomposer une grammaire qui leur soit personnelle, une conception du récit, une manière d'écrire qu'ils apprennent d'autres, peut-être en Asie, dans d'autres univers, dans d'autres mondes littéraires, peut-être dans une expérience du monde différente. Je crois que l'ère de l'arrogance française, de ce point de vue-là, au plan des belles lettres, est définitivement terminée.
Alors Marin de Viry, je voudrais terminer puisque nous arrivons à la fin de cette émission, mais je voudrais tout de même évoquer, à côté de l'article de Marin de Viry, qui est un article très amusant, il y a un autre article qui montre que la revue du Deux Mondes sait sourire, c'est l'article de Bernard Chapuis, qui est une forme d'analyse politique originale.
Oui, tout à fait. Bernard Chapuis, dont j'ai toujours plaisir à rappeler qu'il a été l'auteur autrefois, dans les années 70, d'un petit pamphlet qui s'appelait Le Goulag, et qui était évidemment une allusion au goulag, mais qui était une façon de dénoncer peut-être un des tout premiers, le politiquement correct qui n'a pas cessé de gonfler, de proliférer depuis. Et là, il a proposé de se faire un peu le témoin de ce qu'il appelle la rue médiatique, donc qui ne se confond pas avec la scène médiatique où n'apparaissent que les stars, mais qui consiste plutôt au fond à essayer de saisir un peu l'air du temps et l'air du temps là qui nous entoure, évidemment à forte coloration politique, donc sa chronique est toute déguisée de pseudo qui ne trompe personne, on peut s'amuser à reconnaître les protagonistes derrière les pseudonymes.
Eh bien Michel Crépu, merci beaucoup.
Merci à vous.
Je renvoie nos auditeurs donc à la revue des Deux Mondes, le numéro de janvier 2007, la Cour des Comptes à 200 ans, donc plusieurs entretiens, plusieurs interviews et les rubriques habituelles. Merci beaucoup et au mois prochain, rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de la Revue des Deux Mondes. Peut-être un dernier mot, la Revue des Deux Mondes est disponible dans la plupart des kiosques et librairies, et si vous la souhaitez également, vous pouvez la trouver ou en tous les cas la commander sur internet sur le site www.revuedesdeuxmondes.com. Merci beaucoup et rendez-vous le mois prochain. Thank you.